Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le dernier épisode du Handicaché Podcast saison 1. Je reçois Danielle, directrice de la Fondation Santé Bécancour-Nicolas-Yamaska, qui est une partenaire du podcast, et également on fait des retours sur l'ensemble de cette saison avec les nombreux invités qu'il y a eu, les réflexions qu'on y a posées ensemble et plus encore. Si vous voulez savoir si la saison 2 va être de retour, restez à l'écoute et allez écouter également la mi-podcast pour savoir d'autres détails sur mes futurs projets. Merci à vous et bonne écoute! Dernière émission du Handicaché Podcast. Je suis vraiment choyée de t'avoir avec nous. Comment tu te sens d'être ici aujourd'hui? Comme première question, c'est beaucoup, là, mais...
Oui, mais je me sens bien. Sérieux, là, je me sens très bien. Fière.
Oui.
Heureuse.
Oui.
Fière d'être avec toi.
Vraiment. Pour mettre les gens dans le contexte, dans le fond, là, j'en ai parlé un petit peu de la Fondation Santé Bécancour, Nicolas Yamaska, à travers les mi-podcasts. Puis, en fait, on trouvait que c'est une belle occasion de clore l'émission aujourd'hui, de venir plus expliquer en profondeur c'est quoi la Fondation, mais aussi qui tu es, Danielle, la directrice, pas juste avec la Fondation, mais en tant que personne, parce que tu es une super belle personne. On s'attache facilement à toi. Puis, venir clore la boucle, en fait, de tout ce projet-là, puis qui a été fait en grande partie, là, oui, avec la Fondation, via l'appui aussi là, du député Donald Martel.
Oui.
Donc, de revenir sur tout ça. Fait que ma première question, en fait, que j'aimerais te poser, puis que je pose à toutes les invités, j'aimerais que tu me décrives, c'est qui, Danielle? C'est quoi les rôles, les chapeaux que tu portes dans la vie? Puis venir un petit peu expliquer ton parcours, peut-être plus personnel, avant qu'on parle là, de la Fondation et tout.
Bien, avec plaisir. Comme je te disais, je suis moi aussi très fière de toi, très fière du partenariat. On va en rejaser tantôt, là, que...
Oui.
Qu'on a pu réaliser ensemble.
Ouais.
Alors, moi, je suis Danielle Gamelin, je suis directrice générale de la Fondation Santé Bécancour-Nicolas-Yamaska depuis maintenant plus de 10 ans.
Wow.
Le temps passe vite.
Vraiment?
Comme carrière, tu me demandais qui je suis comme personne. Je suis une personne qui a des valeurs d'humanisme, de générosité, de santé, d'intégrité. D'authenticité. Ça, je pense que ça me définit pas mal comme être humain.
Oui, puis je rajouterais même d'ouverture beaucoup, je pense,
oui.
À travers tout ce qu'on a eu comme conversation. Tu es quelqu'un de très ouverte là, de ce que j'ai pu...
Bien, merci, c'est gentil. Puis oui, effectivement, je pense que tu as bien raison.
Mm.
Et je pense que la vie m'a amenée aussi à travers mon éducation, mes diverses expériences, autant personnelles que professionnelles, à devenir la personne que je suis, d'incarner les valeurs que je viens de te nommer. Moi, j'ai fait carrière professionnellement dans le réseau de la santé et des services sociaux.
En quoi exactement?
J'étais gestionnaire. J'ai débuté ma carrière il y a de ça très longtemps, donc j'ai été dans le réseau de la santé durant 34 ans.
Wow.
Et je viens de te dire que ça fait 10 ans que je suis directrice générale de la Fondation.
Alors, mais wow, tu vois que... Wow. Ça amène la sagesse, l'expérience, tout ça, c'est vraiment beau. Wow. Félicitations en passant pour toutes les années que tu as investies là-dedans.
Oui.
Je trouve que c'est incroyable quand même.
Oui, puis tu as raison, Juliane, c'est vraiment un gros investissement, un don de soi.
Ouais.
Les gens qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux, j'aime bien dire aussi services sociaux parce qu'on parle de santé globale.
Oui.
Ce sont des gens, là, en général, là, investis, généreux, très humains, qui ont à cœur justement la santé des gens.
Ouais.
Alors moi, j'étais pas au niveau clinique, j'étais plus au niveau gestion. J'ai une formation de base en comptabilité et en finance.
Okay.
Et par la suite, je suis retournée à l'université faire une maîtrise en administration publique puisque j'étais justement au niveau du secteur parapublic, au niveau de la santé, et que j'ai quitté justement en 2015. Et depuis ce temps-là, je suis directrice de la Fondation et pour moi, je t'ai parlé tantôt d'une de mes valeurs, la générosité.
Oui.
C'est que pour moi, la générosité se manifeste pas juste par des dons en argent. Oui, bien sûr que c'est ça, mais c'est aussi le don de soi,
oui.
L'entraide, l'accompagnement. Alors, je m'implique dans ma communauté,
oui.
Qui est la communauté de la Fondation, là, Bécancour-Nicolas-Yamaska, comme mentor et chef mentor de la cellule de mentorat pour entrepreneurs de la SADC de Nicolet
Bécancourt. Je ne savais pas tout ça, ces volets-là. Wow, c'est impressionnant.
Parce que pour moi, encore une fois, tout se tient, là, tout est dans tout, qu'ils disent.
Oui, oui.
Alors, pour moi, une communauté est aussi forte que l'implication des gens qui y vivent. C'est quelque chose qui m'habite beaucoup.
Un va pas sans l'autre.
Exactement. Alors, moi, c'est important pour moi et je me dis, ben j'amène ma goutte d'eau à l'océan.
Oh, c'est beau, ça. J'adore ça. Puis, en fait, là, pour aller plus en profondeur au niveau de la fondation, tout ça, j'aimerais commencer par te demander qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as accepté le partenariat avec Handicaché Podcast. Qu'est-ce qui t'a animé dans ce projet-là? Puis pourquoi ça a été accepté là, en fait, par la fondation, tout ça?
Par le conseil d'administration, tout à fait.
Oui.
Je suis très, très heureuse que tu me poses cette question-là. Parce que je la trouve très pertinente, puis ça me permet d'expliquer pourquoi, justement, on a accepté ton projet, qui est très unique et particulier. C'est pas le genre de... On va reparler tantôt plus en détail de la fondation, mais c'est pas le genre de projet que d'emblée, on va faire habituellement.
Oui.
C'est la première fois qu'on fait un projet de ce type-là.
Oui.
Pourquoi on a accepté de le faire? Parce que, premièrement, on trouvait que c'était un projet novateur, un projet très actuel. Un projet aussi qui rejoignait plusieurs objectifs, en fait, qu'on poursuit, de communication pour mieux faire connaître la fondation et tout ce qu'on fait. Et on trouvait aussi, je te parlais tantôt, qu'on est très santé globale, donc santé psychologique et santé physique. Donc, on trouvait que ton projet touchait à tous ces aspects-là. Et encore une fois, compte tenu qu'on est quand même en 2025, et que la technologie, les podcasts, c'est quelque chose qui a de l'influence sur nos communautés. Alors, c'est pour ça qu'on a accepté de participer à ce projet-là. Et je ne te cacherai pas aussi que tu m'as tombé dans l'œil.
Oh! T'es vraiment fine, puis c'est ça, j'ai tellement d'admiration envers ce geste-là que tu m'as porté, puis le conseil d'administration, puis tout le monde derrière ce projet-là, parce que c'est un projet un peu exploratoire. Tu sais, moi, je ne suis pas une animatrice dans la vie, je ne suis pas dans le domaine de la santé, peut-être plus services sociaux, là. Mais, tu sais, c'était beaucoup de confiance que vous m'avez donnée pour remplir ce projet-là, puis confiance envers toutes les invités aussi, puis à travers les histoires de toutes les réflexions. Fait que c'était vraiment important pour moi de remplir l'émission aussi de la Fondation là-dedans, puis d'aller justement rechercher... Bien, simplement, je pense que le but de ce projet-là, c'était de sensibiliser les gens, d'aller chercher aussi des gens qui puissent s'identifier à d'autres personnes qui vivent certaines périodes de leur vie plus difficiles, redonner espoir. Fait qu'un petit peu plus, ce qui touche à peut-être plus santé mentale, mais aussi santé globale, dans le sens qu'il y avait des invités avec des incapacités physiques ou qui allaient redonner espoir, redonner peut-être des buts. Puis je pense que c'était vraiment le but principal de ça. Là. Puis je suis contente si la Fondation a pu là, se voir là-dedans, là, vraiment.
Bien, encore une fois, on est très heureux, puis on est bien fiers de toi.
Bien, merci. Puis, en fait, est-ce que tu peux nous mettre plus en lumière? Parce que là, on a parlé, tu sais, vous avez accepté ce projet-là qui est comme hors un peu de la norme, mais qu'est-ce que ça fait, la Fondation Santé Bécancourt Nicolas Yamaska? C'est quoi les valeurs qui l'animent, vos missions, puis qu'est-ce que vous redonnez aussi à la communauté à travers tout ça?
Parfait, avec grand plaisir. Hein.
C'est beaucoup, là!
Je ne manque pas une tribune, moi, pour parler de la Fondation, parce que je l'ai vraiment beaucoup à cœur, parce que je suis aux premières loges pour justement savoir tout ce qu'elle, tout le bien qu'elle peut faire là, dans notre communauté.
Oui.
Alors, tout d'abord, nos valeurs, ce sont des valeurs, bien sûr, d'humanisme, d'intégrité, de proximité, parce que nous, on est une fondation locale. On n'est pas une fondation régionale, provinciale. On est vraiment très, très locale. Et bien sûr, une valeur, notre quatrième valeur, c'est la solidarité. Notre mission, elle est simple, en fait. C'est de soutenir les services offerts en santé et services sociaux sur tout le territoire de Bécancourt, Nicolet, Yamaska. Donc, je dis qu'on couvre un territoire, donc c'est le territoire de la MRC de Nicolet, Yamaska et le territoire de la MRC de Bécancourt. Ça représente environ 44 000 personnes. Et notre vision maintenant, on est très, très fiers de notre vision, dans le sens que nous, on n'est pas là pour remplacer les investissements gouvernementaux, parce que, faut que je dise aussi à qui on fait des dons. On fait des dons au réseau de la santé, donc au CIUS, Mauricie Centre du Québec. Et on fait aussi des dons à tous les organismes communautaires du milieu qui œuvrent en santé et services sociaux. Donc, nous, on est là pour faire de la bienfaisance et aussi, et je vais te parler par la suite de la hauteur de nos dons à chaque année, on a la prétention, la croyance.
La bonne croyance.
Exact. On participe de façon active au développement social et économique de notre territoire par nos dons. Parce qu'effectivement, le conseil d'administration s'est engagé à faire des dons minimum de 100 000 $ par année.
Wow.
Donc, pas juste une fois, là, à toutes les années.
Et c'est ça, incroyable.
C'est incroyable.
Incroyable.
Une petite communauté comme la nôtre, là, tout est relatif.
Oui,
là.
Oui.
Mais si on se compare, là, alors, puis j'ai des preuves de ça, bien sûr, parce que je t'ai dit tantôt que j'étais une fille de finance,
c'est
de chiffres aussi. Là.
C'est ça.
Alors, tu vois, les 5 dernières années, notre moyenne annuelle de dons est de 155 000 $.
Donc, vous dépassez vos objectifs.
Exactement.
En plus.
Et l'année 2024, 181 000 $.
Wow!
OK. Donc, on est très actifs. Puis, tu comprendras que je vais profiter de la tribune pour remercier nos fidèles donateurs.
Absolument.
Qui croient en nous, qui nous font confiance. Alors, pour moi, c'est hyper important de les remercier parce que sans eux, on n'est pas là. Et quand je parle des donateurs, j'extensionne à toutes les collaborations qu'on a avec les entreprises partenaires.
Oui.
Du territoire, beaucoup, beaucoup. Hein, je disais, on est une fondation locale, donc on est très soutenus. Je pense à Desjardins, notre prochain président d'honneur, je vais vous en parler tantôt, l'entrepreneur général Terrien.
Wow.
On a eu OG Automobile qui a été président d'honneur quelques années. Bref, je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas toutes les nommer, puis je m'en voudrais tellement d'en oublier parce que c'est phénoménal le soutien qu'on a.
Sont tous importants.
La confiance qu'ils nous portent, alors, merci infiniment.
Oh, wow, c'est beau, c'est beau. Puis, au niveau de tout, justement, qu'est-ce que ces donateurs-là peuvent faire concrètement, c'est quoi les dons que vous pouvez faire, exemple, à des organismes communautaires, à des services du CIUS? Qu'est-ce que vous pouvez offrir concrètement à la communauté, soit comme équipement, services, autres? Est-ce que tu peux me donner un peu quelques exemples pour mettre les gens
en contexte? Avec plaisir, tu comprends, j'aime toujours ça.
Oui.
Parce que... c'est concret.
Oui, c'est ça.
C'est ce que tu dis, c'est concret. C'est beau dire on ramasse de l'argent, mais on fait quoi avec, concrètement?
Oui,
c'est
exact.
Des preuves, justement, de notre bienfaisance.
Oui.
Alors, je vais commencer par un projet chouchou. On a donné 50 000 $ au CIUS, Mauricie Centre du Québec, pour le soutenir, parce que, je l'ai dit tantôt, nous, on ne remplace pas les investissements gouvernementaux. On est là pour ajouter et créer de la valeur.
Oui.
Ça, c'est un de nos grands principes. En philanthropie. Alors, il y avait, et il y a encore, là, malheureusement, mais il y avait une très longue liste d'attente pour les enfants qui étaient en évaluation, soit pour une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Oh.
Alors, nous, ça nous touchait beaucoup parce que on parle d'un enfant, mais on parle aussi de toute sa famille.
Oui.
Alors, on a offert au CIUS, qui a créé un projet novateur, spécial, pour évaluer de façon un petit peu plus accélérée, parce qu'on comprend que, c'est important de le nommer, qu'une évaluation pour une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, ce n'est pas comme une prise de sang pour un diagnostic de diabète.
Hein? Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de, même des fois plusieurs évaluations à faire.
Ça peut durer entre 6 mois, 1 an en moyenne.
Ouais.
Et nous, avec cette collaboration-là qu'on a eu avec l'équipe de professionnels du CIUS qui ont été super engagés dans le projet avec nous, en fait, c'est eux qui l'ont réalisé, ça s'est fait sur une moins longue période, ce qui a permis, sur une année, d'évaluer 19 enfants et de réduire la liste d'attente de 6 mois.
Wow!
Alors ça, pour nous, là, c'est vraiment très significatif et concret de l'aide qu'on peut apporter aux familles de chez nous.
Absolument. Puis à ces enfants-là aussi qui vont peut-être rentrer à l'école, avoir accès à d'autres services aussi parce qu'ils ont eu accès à ce diagnostic-là. Ils vont pouvoir avoir plus d'outils autour des besoins qu'ils ont à travers ces évaluations-là. Fait que oui,
exactement.
Effectivement.
Oui, tout à fait. Et un autre projet qui vient appuyer ce que je viens de te dire, qu'on est là en ajout, en bonification de services, donc on crée de la valeur en santé et services sociaux, c'est que Ce qu'on va donner, c'est jamais quelque chose, bien sûr, qui est dans la mission de base du CIUSSS. Donc, nous, on a deux urgences sur notre territoire. On en a une à Fortierville.
Oui.
On en a une à Nicolet. On est bien contents puis fiers de ça.
Vraiment.
Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné à chacun, on appelle ça un échographe cardiaque mobile. C'est une valeur de près de 70 000 $ chacun. Pour que c'est pas un type d'équipement qu'on retrouve dans une urgence mineure comme on a sur nos territoires.
Ouais.
Alors, grâce à la Fondation, on a, ils ont maintenant, les deux urgences ont cet équipement-là qui permet de passer un examen, là, une échographie, en fait, là, locale à l'urgence, donc d'éviter des déplacements.
De se rendre dans les grandes villes.
Exactement.
Des fois l'hiver, puis des fois les gens qui sont reculés en campagne. Je suis plus du coin, justement, Forcéville, tout ça.
Oui.
Tu sais, des fois, s'il y a une urgence imminente, de voir s'il y a quelque chose, ça peut aussi sauver des vies à long terme.
Absolument.
Tu sais, on va à côté voir si tout est correct, puis sinon, on se calme, tu sais. Mais je suis vraiment contente que c'est laissé là. Bien, pas c'est laissé là, mais ces urgences-là puissent avoir ce petit équipement-là. C'est vraiment. Oui. Wow.
Puis tu as mentionné, ça peut sauver des vies. Je te confirme que oui.
Oui.
Parce que un des médecins là, qui travaille à l'urgence nous a confirmé que ces appareils-là ont pu sauver des vies.
Wow.
Alors ça, c'est un projet qu'on affectionne beaucoup aussi. Mm. Maintenant, à Nicolet, il y a un point de service du CPS Le Cercle, qui est un centre de pédiatrie sociale.
Oui.
On en a ouvert, grâce à la Fondation, on a fait un don de 10 000 $ et maintenant, on a un point de service à Nicolet.
Wow!
Grande fierté, hein?
Oui, très grande fierté. En passant, c'est une petite parabole. Mm. J'ai été stagiaire au centre Le Cercle.
C'est vrai?
Oui, puis j'ai aussi continué un emploi là cet été. Là, puis je peux te dire que la mission, l'objectif de ce centre-là, c'est incroyable pour les familles, les enfants. Fait que oui, ça aussi, c'est du concret qui est très, très apprécié, j'en suis certaine, oui.
Tellement.
Ouais.
Et tu vois, on a fait aussi un don, parce que, il faut que je te mentionne, c'est important, là, on a trois priorités d'investissement. Donc, la première, c'est la famille et la jeunesse.
Oui.
La deuxième, c'est la santé mentale. On est très fiers de porter la santé mentale, qui, qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est encore tabou.
Ouais.
Alors, on veut travailler, on est fiers de le porter et de le nommer. Et notre troisième priorité, c'est les personnes âgées en perte d'autonomie. Hein, on ne les oublie pas.
Non.
Et bien sûr, on peut accepter, comme tu peux l'avoir constaté, des projets pour toute autre clientèle, en autant que ça correspond là, à notre mission, à notre vision, à nos valeurs.
Oui.
Et je terminerai peut-être à titre d'exemple avec le projet du hangar d'Elzéar, qui est un projet, une ébénisterie, je dirais sociale. C'est pour briser l'isolement des personnes aînées, des messieurs surtout.
Wow! Hein? Wow!
Nos messieurs, des fois, qui ne parlent pas beaucoup.
Oui.
Surtout de cette génération-là. Alors, ça, c'est un don qu'on a pu faire grâce à une collaboration avec Belle Cause pour la Cause,
wow,
au niveau de la santé mentale, qui nous a offert le 25 000 $ que nous, on a donné, investi au hangar des arts pour des équipements, des formations, pour nos messieurs. Et j'en profite pour dire que le hangar des arts est rattaché au centre d'action bénévole de Nicolet.
Wow.
Et c'est situé à Nicolet, là, au centre-ville.
C'est incroyable. C'est incroyable tout ce que vous pouvez faire. Puis j'ai envie de vous demander, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer comment que les gens peuvent faire un don à la Fondation? De quelle manière c'est la mieux ou pas? Ou comment vous fonctionnez au niveau des dons? C'est quoi la méthode, là, si on veut vous encourager là-dedans?
Ben, en fait, la méthode, il faut qu'elle soit simple.
Oui.
Hein?
Pas idéal.
Simple et rapide.
Oui.
Alors, c'est ce qu'on a. On a un site Internet, www.fondationsantébny.ca. On a un petit onglet quand tu arrives sur la page d'accueil, faire un don. C'est aussi simple que ça. Et j'en profite aussi pour dire, parce que tous ces sous-là qu'on ramasse, des donateurs, on a une campagne de financement par année, en plus des dons qui rentrent là, au fur et à mesure, soit des campagnes de publipostage et tout ça, mais on a une campagne de financement par année. Elle a débuté justement avec le lancement le 4 septembre dernier chez notre président d'honneur de cette année. J'en profite d'ailleurs pour le remercier très chaleureusement, remercier les propriétaires de Terrien, entrepreneur général qui est situé à Nicolet, mais qui travaille partout, partout.
Wow.
C'est des gens généreux, des gens de cœur, qui avaient le goût de s'impliquer dans leur communauté. Alors, c'est nos présidents d'honneur cette année pour notre campagne qui culmine et se termine par notre prestigieux souper gastronomique, un vrai souper gastronomique,
là, wow,
incluant le vin. Et j'en profite aussi pour dire et remercier, parce que je suis tellement fière, le fief de la Rivière, qui va en exclusivité fournir les vins,
wow,
et le mousseux lors du souper gastronomique qui aura lieu le 20 mars 2026. À l'Hôtel Montfort. Merci, Hôtel Montfort, de nous recevoir. C'est tellement agréable, tellement... C'est une soirée, vraiment, là, faut le vivre.
Pour le comprendre.
Pour voir tout ce, la chaleur humaine, la bonté qui règne lors de cette soirée-là.
Puis, en somme, c'est toutes des personnes qui ont les mêmes valeurs d'humanité que toi qui participent à cet événement-là.
Oui, beaucoup d'entreprises. Donc, oui, certains pourront dire c'est corporatif, oui. Mais ce n'est pas juste corporatif. On a beaucoup de citoyens, de gens de la population, de nos donateurs qui disent « ben moi, je me paye ce souper-là » parce que c'est quand même un prix important, c'est 200 $ par personne.
Ouais.
Mais comme je viens de le mentionner, on n'est pas gêné là, parce que c'est un repas 4 services.
Wow.
Ça inclut le vin et on donne un reçu de charité de 100 $ par billet.
Okay.
Donc, je pense que c'est un bel investissement dans sa communauté, en plus de passer une magnifique soirée.
Oui, puis ça peut interpeller n'importe qui, que ce soit une équipe de travail qui a envie de passer un bon moment.
Absolument.
Avant un party de peu importe, une fête de quelqu'un, un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, que tu as envie de prendre un moment de qualité, en plus d'encourager une bonne cause, je pense que c'est une belle occasion là, d'aller encourager aussi la fondation, effectivement.
Absolument, tu as tout à fait raison.
Ouais. Ah ben merci Daniel pour toutes ces belles questions-là. Ben toutes pas ces questions-là, mais ces belles informations-là. Puis si ça peut éclairer les gens à justement comprendre concrètement qu'est-ce que vous faites, puis à aller vous encourager, je le souhaite de tout cœur parce que vous redonnez énormément. Puis vous êtes une cause très importante pour la population d'ici là, pour beaucoup de personnes, dont moi effectivement.
Ben merci. Puis j'ai le goût de dire aux gens, faites le don pour vous. Faites le don D.O.N.
Oui.
Faites-le pour vous.
Oui.
Parce que ce soit vous personnellement, tôt ou tard, ou quelqu'un de votre famille, on a tous besoin des services de santé, de services sociaux chez nous. Et nous, je le disais, je le répète, on est une fondation locale. Donc, pour nous, c'est important d'être là pour notre monde. Alors, on compte sur eux aussi pour nous soutenir, bien sûr.
Oui, puis ça fait un lien, ce que tu dis un petit peu avec... le podcast en soi, puis un peu les réflexions que j'en ressors, on ne sait pas dans la vie, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver, puis que ce soit à nos proches, que ce soit à nous-mêmes. Fait que c'est important de donner quand on peut, puis de comment dire, justement, voir un peu qu'est-ce qu'on peut amener, mais aussi qu'est-ce qu'on peut recevoir un jour, parce qu'on ne sait pas, un accident, un handicap, une perte de capacité, peu importe, on ne sait pas la vie, qu'est-ce qu'elle peut amener. Puis je pense qu'il faut être conscient de tout ça puis encourager pour nos familles, pour les autres, pour le don de soi simplement.
Tellement. Donner au suivant. Hein?
Donner au suivant,
c'est toujours bon.
Oui, exact.
Si on ne le fait pas pour nous, on donne au suivant, mais peut-être que tantôt, ça va être nous le suivant.
C'est ça,
exact. Allons en bénéficier.
Oui, vraiment, vraiment. Mais merci encore pour toutes ces informations-là.
Ça me fait grand plaisir.
Merci.
Juliane.
Merci. Bonjour tout le monde, je fais une petite pause pour vous nommer quelques points qui sont ressortis de la saison 1 du Handicaché Podcast. Premièrement, je voulais vous expliquer en fait que certains invités n'ont pas eu de moment d'impact parce que simplement les entrevues ont duré plus longtemps que les autres. Également, il est important de comprendre que les émissions n'ont pas été diffusées dans l'ordre des tournages, ce qui fait qu'il y a pu avoir peut-être des répétitions à certains endroits. Donc, j'en suis désolée pour ces moments-là. Également, je voulais vous parler s'il y avait un retour ou non de la saison 2, et c'est maintenant que j'en parle. Même si mon souhait de poursuivre et de réentendre vos histoires, de les partager avec tous, est très présent encore chez moi, je dois mettre sur pause ce projet-là pour cette année simplement, parce que j'ai des projets personnels, mais j'ai aussi d'autres projets pour handicachés simplement qui sont autant au cœur de la mission là, du Handicaché podcast, mais simplement allez vous abonner en fait au Handicaché au niveau de Facebook, Instagram pour rien manquer de mes autres projets qui vont sortir dans la prochaine année. Puis si vous souhaitez m'envoyer en fait toutes vos histoires, des choses qui vous tiennent à cœur, que si une saison 2 émergerait un jour, vous pouvez toujours m'écrire, ça va me faire plaisir de vous lire et on verra par la suite l'avenir. Donc, c'est une première information que je souhaitais vous donner. J'aimerais également m'excuser parce que mon manque d'expérience a pu transparaître, en fait, dans certaines fluidités là, de mes questions pendant les entrevues ou d'autres moments pour différentes raisons. Je suis ni une animatrice, ni une médecin, ni une spécialiste de la santé. Donc, si j'ai utilisé des termes là, qui n'étaient pas adéquats, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à donner les bonnes informations. Je suis très ouverte à tout commentaire qui peuvent simplement me faire grandir davantage. Donc, en fait, je voulais simplement également vous remercier tous les auditeurs qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé. N'hésitez pas à aller suivre Handicaché sur tous les réseaux sociaux. Puis, pour terminer, j'aimerais encore une fois remercier tous les invités qui se sont réellement livrés à tout le monde, à moi, et qui m'ont fait une grande confiance. Merci à tous pour cette belle expérience. J'en suis très reconnaissante.
Profite l'occasion, vous voyez que je porte mon chandail, j'aime la vie.
Oui.
Alors, c'est un partenariat qu'on a aussi avec Lettrage Griffon à Nicolet. Il nous remet l'entièreté des profits de la vente du chandail.
Wow.
On peut se trouver encore une fois à fondationsantebny.ca. Donc, on peut acheter le chandail, il n'est vraiment pas dispendieux, c'est 40 $. Et je peux vous dire qu'il est d'excellente qualité. Je le porte souvent.
Oui.
Et je le lave souvent. Il est 100% polyester. Alors, il reste très beau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui en ont, mais ce serait le fun qu'on se lance le petit défi d'avoir notre chandail « J'aime la vie
».
Et il est très significatif du message qu'on porte aussi à la Fondation.
C'est vrai. « J'aime la vie », ça ne peut pas représenter mieux que essayer toujours de voir le positif, de redonner, de voir la beauté de tout ça. Puis, je pense que aller encourager encore une fois la Fondation à travers ce chandail-là, bien, c'est aussi se redonner une belle phrase, des fois quand ça va peut-être moins bien, de juste se remettre sur le positif de la vie. Fait que j'adore cette idée-là.
Bien, merci beaucoup.
Ouais.
Alors là, Julien, là, tu vas perdre le contrôle de ton podcast. Alors,
pour une deuxième fois, c'est la deuxième fois que je fais ça. On s'interchange les questions.
Je l'ai vu, oui.
Ouais.
Alors, c'est moi maintenant qui va te poser des questions parce que on s'est connus un petit peu à travers, justement, le projet.
Ouais.
Mais j'aimerais ça mieux te connaître et je suis certaine que je ne suis pas la seule.
Oui.
Parce que les gens qui ont regardé, qui ont écouté tes podcasts, certainement qui veulent en savoir plus sur toi, même si tu as quand même dit des choses là, au fil de tes podcasts.
Ouais.
Alors, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ce projet-là? Puis, c'était quoi tes objectifs? Où tu t'en allais avec ça, là?
Bien, dans le fond, où est-ce que ça l'a parti tout ça? Je l'avais un petit peu expliqué, mais si j'y vais encore plus en profondeur, je pense que depuis que je suis tout petite, bien, ce projet-là, premièrement, c'était un dépassement de soi.
Mm-hmm.
Pour moi, avant tout. Quand j'étais petite, j'étais gênée de mes différences. J'étais très renfermée sur moi-même, introvertie. Puis ce projet-là, je le fais un petit peu pour cette Julianne-là, mais aussi pour toutes les autres enfants ou personnes, même les adultes encore aujourd'hui, qui se sentent comme ça, qui ont besoin de cacher une partie d'eux-mêmes, qui ont besoin de se rattacher à une personne, à s'identifier à quelqu'un, redonner espoir, qu'on peut toujours foncer dans la vie puis atteindre ses buts. Pour la petite Julianne, là, même qui se faisait vomir pour ne pas faire un exposé oral devant les gens, très, très anxieuse, je me suis dépassée. Puis s'il y a des autres, s'il y a des invités qui ont pu aussi redonner espoir à des personnes qui vivent les mêmes expériences de vie, parfois difficiles, moi, c'était mon but de pouvoir redonner un certain sens à la vie, un certain espoir à travers ça. Fait que c'est un peu comme ça là, que je le vois depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'essayer de me pousser ma limite là-dedans, puis d'accepter cette partie-là de moi qui est que je vis avec, qui n'est pas moi, mais un handicap. Des fois, c'est difficile aussi, justement, de comprendre des fois son corps quand on a une maladie chronique, tu sais, qui on ne sait pas demain ça va être quoi, de mettre ses limites, d'en parler, de s'afficher, tu sais, de juste, que ce soit d'aller à l'école, que je me stationne dans la partie où est-ce qu'on, c'est pour les désigner aux personnes qui vivent avec un handicap, ça a déjà été confrontant pour moi autrefois dans ma vie. Puis aujourd'hui, je l'accepte tout ça. Puis quand j'en ai besoin, tout ce qui est accommodement raisonnable, je l'utilise quand que j'en ressens le besoin. Puis je m'écoute, mais je ne me suis pas toujours écoutée. Mais ça m'a tellement apporté de beau quand même dans la vie, justement, avoir un diagnostic de myopathie congénitale. Puis, tu sais, dans le fond, ça m'a rapproché beaucoup de vraies relations aussi. Des personnes qui me comprennent, des personnes qui... juste par exemple, c'était des exemples que n'importe quelle personne qui vit avec une maladie chronique ou autre, un syndrome, qui amène à des fois, ben on a des choses de prévues, mais là, je me sens pas bien dans mon énergie, je suis fatiguée. J'ai pas l'exemple d'une pneumonie, mais je ne peux pas me rendre à la soirée pour telle raison. Il y a des gens qui comprennent facilement que c'est pas pour on appelle ça les choqués dans notre génération à nous, tu sais, leur poser faux bon, mais les personnes de nos entourages nous aiment réellement pour qui nous sommes. Le fauteuil roulant ne dérange pas, va être au contraire, c'est comme ça fait partie d'eux, puis on est facilement plus accepté quand qu'on est nous-mêmes. Fait que je pense qu'il faut s'accepter soi-même pour que les autres aussi puissent voir nos vraies couleurs. Puis ça part un petit peu de là. Ouais. Puis je voulais beaucoup aider, c'est ça, d'autres personnes à être sensibilisées aussi à plusieurs sujets soit qu'on n'entend pas beaucoup, qu'on ne parle pas beaucoup, que ce soit au niveau de la santé mentale, puis pas juste au niveau handicapé, ça fait référence beaucoup. Il y en a qui pensent à un handicap invisible, mais non. Tu sais, j'ai reçu, par exemple, Marc-Olivier qui vit avec un handicap physique, puis je voulais qu'on aborde aussi des termes qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Tu sais, Marco, il a parlé de au niveau des soins à domicile, au niveau de beaucoup d'autres choses que les gens ne demandent pas nécessairement de questions ou qui se posent des questions, mais qui n'osent pas le faire. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'il faut démystifier, aborder aussi, puis peu importe la condition, là, on vit toutes des petites batailles silencieuses aussi dans la vie, que ce soit un deuil, une épreuve. Fait que c'est important d'en parler aussi, je pense que c'est comme un peu une première étape d'une guérison en soi, là, je crois.
En tout cas, bravo, vraiment, je n'ai que ce mot à te dire, je te félicite vraiment, et tu es une belle et une bonne ambassadrice.
Bien, merci.
Pour justement tout ce que tu viens de dire, là, pour faire connaître la différence, parce qu'en fait, on l'est tous différents.
Oui, c'est ça. La différence est pour tout le monde.
C'est ça. Que ce soit, comme tu dis, caché ou pas, ou on a tous notre couleur très, très, très spécifique.
Oui.
Alors moi, je tiens vraiment, Juliane, à te féliciter.
Oh, merci.
Parce que tu as eu du courage aussi pour faire ça. Ça prend du courage, de la détermination, de la persévérance.
Oui.
Tu as travaillé fort, tu as fait des recherches.
Oui.
Tu t'es vraiment dépassée, c'est ce que tu as dit tantôt. Oui, hein, c'est un dépassement de soi. Et j'invite les gens qui ont des différences, parce qu'on en a tous, j'invite tout le monde.
Oui.
À parler de nos différences, à les mettre en valeur, comme tu viens de le dire, au lieu de les cacher, parce que justement, ça t'a apporté tellement de beau.
Oui, exactement, exactement. C'est vraiment ce qui fait le pont avec tous ces projets-là. Il faut mettre de l'avant ce qui nous rend différents, simplement.
Tout à fait.
Oui, bien merci.
Ben, merci.
Merci pour tous tes beaux commentaires, c'est vraiment gentil.
Ben écoute, c'est tellement sincère.
Merci.
J'aimerais ça aussi peut-être d'un côté que les gens n'ont pas vu dans tes podcasts, mais peut-être nous parler, compte tenu que c'était tes premières expériences de tournage.
Oui.
Comment tu t'es sentie, là, quand tu faisais tes épisodes, là? On n'en parlera pas trop longtemps, mais je pense que les gens ont peut-être cette curiosité.
Oui. Ben pour vrai, avec les invités, ça a été les plus beaux moments de tout. Tout ce qui a entouré ce beau projet-là, parce que une fois que les conversations commencent, j'oublie les caméras, j'oublie notre charmant caméraman dans l'arrière qu'on aime beaucoup, Justin.
Bien sûr.
Puis je me plonge vraiment dans le moment le plus possible avec les invités. Mais ce que je me suis rendu compte qui était quand même cocasse, c'est que quand j'ai réentendu les épisodes pour les réécouter, ben j'étais tellement dans le moment avec chaque invité, parce que des fois, il y en avait peut-être deux ou trois dans la même journée. Fait que fallait que je fasse comme un vide aussi entre les invités.
C'est exigeant.
Ben pas sur le moment, je ne l'ai pas vu comme ça. Okay. Mais ça a été plus après, quand j'ai réécouté les épisodes, puis que c'est comme si je réapprenais encore des nouvelles informations. Okay. Fait que c'est comme si mon cerveau faisait le vide, mm-hmm. puis c'est comme si je réapprenais des choses en les réécoutant. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même un bon phénomène là, de tout ça, mais ça a été vraiment une expérience formidable avec les invités. Ça a été naturel, ça a coulé, puis j'avais beaucoup de stress, c'est normal. Je pense comme toute personne qui n'est pas animateur dans la vie ou qui se lance dans un projet comme ça, mais je pense que je dois beaucoup à mes invités, mm-hmm. vraiment, parce qu'ils se sont livrés, ils se sont ouverts, puis ils m'ont fait confiance aussi, comme vous m'avez fait confiance. Mm-hmm. Fait que j'aimerais vraiment les remercier aujourd'hui. Je pense que c'est une de mes grandes priorités. Ils m'ont aidé là, vraiment à forger ce projet-là, puis sans eux, je serais rien non plus. Puis, fait que voilà, je pense que ça fait un peu... un petit résumé là, de comment que j'ai aimé l'expérience. Mais c'est sûr, comme n'importe qui, se réécouter, c'est pas facile. On se dit, oh, j'aurais pas dû dire, je sais pas les termes, là, je les ai pas en mémoire, mm-hmm. mais tu sais, oh wow, des fois, je me sens, oh wow.
mais c'est ta couleur.
Oui, c'est ça.
Puis c'est beau.
Oui, c'est ça.
C'est positif.
Faut s'accepter, comme on disait au début. Fait que c'est pas toujours facile, mais ça m'a appris tellement beaucoup de choses. Puis je peux juste en sortir grandi de tout ça, là, vraiment. Mm-hmm. Vraiment.
On peut donc dire que tu as atteint tes objectifs que tu t'étais fixé au départ?
Oui, oui. Okay. Moi, tant que ça rejoignait, tant mm-hmm. que chaque épisode rejoignait au moins une personne, que ça résonnait quelque chose en dedans d'une personne, moi, c'est ce que je voulais. Vraiment, c'est que, c'est ça. Qu'une petite Juliane, qu'elle soit adulte, qu'elle soit enfant, entende une émission qui vient la chercher, qui vient, que la personne puisse se reconnaître dans une autre, puis... Oui, vraiment. Puis autant pour les invités aussi, tu sais, des fois, nommer son histoire, revenir sur des aspects qui sont peut-être difficiles, ça peut ressoulever des émotions, mais après se rendre compte de « Hey, regarde le chemin que j'ai traversé », puis ça ressuscite aussi l'espoir en ces personnes-là, puis l'estime de soi aussi, tu sais, de se rendre compte « J'ai traversé ça, puis je suis rendue là aujourd'hui, puis je suis fière de moi », tu sais, fait que c'est pas mal les objectifs que je voulais atteindre, puis oui.
Parfait. Parle-moi donc des qu'est-ce que tu retires comme leçon de vie, tu en as parlé un petit peu, mais aurais-tu des messages à donner aux gens à travers toute cette expérience de podcast que tu as vécue? Ouais. As-tu tiré des leçons? As-tu fait des apprentissages plus que tiré des leçons? Mm-hmm. As-tu fait des apprentissages par rapport à l'humain, par rapport à la vie en général, là?
Mon Dieu, bien, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, là, puis que j'ai moi-même repensé, tu sais, en réécoutant les épisodes, puis en lisant les commentaires ou en jasant simplement, là. Puis là, je vais dire quelques points qui me reviennent en tête, là. La première chose que j'aimerais dire, c'est, des fois, on s'en rend pas compte, mais le bonheur, il est à portée de main.
Tellement.
Puis des fois, on va trop loin dans la recherche d'être heureux, du bonheur. Puis tu sais, c'est tout à fait normal puis naturel, mais j'entends souvent, même dans mon entourage, des gens dire « Je vais être heureux quand je vais avoir une grosse maison. Oh. Je vais être heureux quand que je vais avoir du matériel. » Tu sais, dans plus tard. Mais
dans plus tard.
Moi, j'ai envie de demander aux gens d'essayer. Puis même moi, là, c'est une pratique que je fais, que j'essaye en tout cas. Ici et maintenant, qu'est-ce qui me rend heureuse? Mm-hmm. Parce que demain, on ne sait pas c'est quoi.
T'as tellement raison.
Puis des fois, c'est triste, mais exemple, dans des diagnostics de cancer ou peu importe un syndrome qui t'empêche d'aller jusqu'au bout de ces rêves-là, qui sont des fois inatteignables, mais j'ai envie de dire, ce bonheur-là, tu ne l'as jamais atteint. Mais dans le fond, c'était peut-être pas ça le bonheur. Dans le fond, c'est peut-être juste d'être avec la famille, juste d'être avec des amis, juste de s'émerveiller, tu sais, à un coucher de soleil. Des fois, le bonheur il est tellement à portée de main, tellement simple. Puis surtout, la santé aussi, tu sais. La santé, ça donne des ailes. Fait que de se rattacher à ça, puis de voir la chance qu'on a. Puis là, je veux pas minimiser aussi en disant ça, tu sais, l'impact au niveau de la santé mentale. Tu sais, la souffrance, ça peut être extrêmement réelle. Mais c'est justement de lever les petits drapeaux, justement, quand on n'est plus capable de s'émerveiller à des petites choses de la vie comme ça. Puis c'est tout à fait légitime. La souffrance est réelle, elle ne se mesure pas, elle ne se compare pas. Fait que ça, c'est un autre message que je veux lancer aussi. Mm-hmm. C'est très important. Ça demande beaucoup de courage d'aller chercher de l'aide quand on a besoin.
Tout à fait.
Puis des épreuves difficiles qui demandent du temps aussi. On ne peut pas guérir du jour au lendemain puis s'émerveiller là, après avoir perdu quelqu'un de cher ou d'avoir un diagnostic grave. Fait que, tu sais, je veux pas minimiser ce côté-là non plus en parlant de ce bonheur-là. Là.
Non, t'as raison, parce que c'est un grand signe de force. Moi, oui. Je pense que c'est un grand signe de force que de demander de l'aide quand on en a besoin.
Oui.
alors qu'on pensait auparavant que c'était un signe de faiblesse. On n'est plus là du tout.
Non.
Puis tu sais, quand tu dis que le bonheur n'est pas dans le matériel, mais il est dans ce qu'on vit comme expérience, dans les petits moments de la vie,
ouais.
Je pense qu'on n'est pas juste nous deux qui le pensons, là.
Ouais.
Les professionnels en santé mentale, ouais, les conférenciers sur le bonheur, sur la vie, le disent. Hein?
Ouais.
C'est vraiment... C'est pas les biens qu'on possède qui nous rend heureux, c'est les expériences de vie.
Oui, puis les relations aussi.
Tout à fait, exactement.
Les relations qu'on tisse avec nos familles, nos amis, les relations significatives, tu sais. Je pense que si on vit au jour le jour vraiment, puis qu'on se ressente sur aujourd'hui, c'est ma dernière journée de la vie, bien, on va profiter de tout ce qu'on peut, mais surtout des gens qu'on aime, puis qui sont importants dans nos vies, tu sais. Fait que de se recentrer là-dessus quand on est sorti de l'eau, effectivement, là.
Puis ce que tu mentionnais aussi, moi, ça m'interpelle, tu sais, de ne pas tout prendre au pied de la lettre.
C'est
ça. Je mettrais le grand chapeau de la susceptibilité, là.
Oui, c'est ça.
Tu sais,
oui.
De tenter de s'éloigner de ça, de prendre la vie du bon côté.
Oui,
avec toute
j'aime la vie.
Ben oui, j'aime la vie avec tous ses beaux côtés.
Oui.
Et de ne pas... simplement s'attarder à ces détails-là. Prenons ce qui est beau, puis le restant, ben on le laisse aller.
Puis ça fait un peu le pont avec l'autre élément que je voulais apporter, que dans la vie, on est mieux de focusser sur l'amour le plus qu'on peut, plutôt que la colère, qui peut vite embarquer aussi dans certaines situations.
Mm-hmm.
Là, je donne des exemples. Exemple, c'est banal, là, mais ça peut arriver dans la vie, une séparation amoureuse, mais que des enfants sont impliqués. Mm-hmm. Mais passez pas plus de temps à entretenir la colère envers votre ex-conjoint que d'aimer vos enfants.
Mmh.
Que ça soit au niveau d'un diagnostic, c'est correct d'éprouver de la colère. La colère, ça peut être sain, la tristesse aussi, mais essayez de se renforcer toujours sur l'amour le plus possible. Puis même au niveau, exemple, j'ai souvent eu de la colère, moi, envers les gens. Exemple, quand j'étais en fauteuil roulant, puis que je me levais, exemple, dans un magasin pour aller chercher des trucs, mais que je me faisais vraiment dévisager. Ça m'amenait beaucoup de frustration, des petites situations comme ça. Beaucoup de colère, mais à un moment donné, je me suis rendu compte, si je passe mon temps à ressentir ça quand je sors, quand je fais mes sorties, ça m'amène absolument rien d'autre que d'être inconfortable moi-même, d'avoir cette énergie-là en dedans de moi. Puis au sens, j'ai fini par me dire, pourquoi je n'essayerais pas d'avoir de l'amour aussi pour ces personnes-là? Je leur demande l'ouverture, j'aimerais ça que ces personnes aient de l'ouverture, mais moi aussi, je pourrais essayer d'être plus dans l'amour envers ces personnes-là, puis de me dire, bien, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'éducation nécessairement au niveau de ce que je vis en ce moment. Peut-être qu'ils ne savent vraiment pas, puis qu'ils ne savent pas comment réagir, qu'on ne leur a jamais expliqué, qu'ils n'ont jamais eu accès à des personnes, même qui sont en fauteuil roulant, puis qui se lèvent devant eux. Fait que d'essayer d'être dans ce mindset-là le plus possible, que les gens font toujours de leur meilleur avec les capacités qu'ils ont, l'éducation qu'ils ont eue, puis d'essayer de leur donner un peu d'amour à ces personnes-là aussi. Fait que, ça, c'est une autre de mes réflexions qui m'était venue.
Je trouve que c'est tellement un beau message parce que tu l'as mentionné tantôt, on est tous différents et on a tous un petit quelque chose qu'on aimerait mieux pas avoir, on va dire ça comme ça.
Oui.
Alors, de le prendre sous cet angle-là, je trouve que ton message, il est très positif et j'espère que tout le monde va t'entendre parce qu'il s'adresse à tout le monde.
Vraiment. Puis ces personnes-là aussi que des fois, on pense qui jugent ou peu importe, c'est qu'ils ont peut-être une bonne journée simplement, mais peut-être que cette personne-là aussi, elle a une bataille invisible qu'on ne voit pas.
Exact.
Puis que ce n'était pas une bonne journée. Fait que c'est juste d'être toujours sensible à qui est devant nous. Puis, c'est ça, la colère, ça ronge, c'est pas le fun, c'est énergivore. Fait que peu importe la situation, de se rationaliser beaucoup là-dedans. Donc, c'est pas mal vraiment ce que je voulais dire. Puis, la dernière chose, c'est que, tu sais, au niveau du deuil, j'en ai beaucoup parlé, tu sais, à travers les émissions. Je pense que c'est quelque chose qui me tient quand même beaucoup à cœur. Puis on voit, cette semaine, c'est le deuil périnatal, tu sais, qu'on parlait beaucoup là, les derniers jours. Puis ça me soulève encore un message que je souhaite encore rendre à tout le monde. On peut vivre toutes sortes de deuils, que ce soit une perte matérielle, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit le deuil d'une capacité. Puis je pense que c'est important que les gens prennent conscience que c'est correct, tu sais, de prendre le temps.
Tout à fait.
Quand on a un deuil, on se dit, est-ce que je vais finir par revenir comme j'étais avant? Puis la réponse, bien, des fois, c'est non.
Exact.
Puis des fois, c'est correct de demeurer inchangé parce que cette épreuve-là t'a amené à développer ailleurs, t'a amené à développer autre chose. Puis il faut revoir le beau, qu'est-ce que ça t'a amené de beau aussi, ce deuil-là. Mais de ne pas se mettre de pression, parce qu'on ne veut pas dans la société d'aujourd'hui, ça va vite, on roule. T'sais, le temps, il faut vraiment le prendre, parce que c'est difficile des fois de s'arrêter, tu sais. Mais le deuil, c'est correct que tu le vives lentement. Puis c'est correct que tu ne guérisses pas demain matin, tu sais.
J'oserais même dire, si tu me permets, Juliane, c'est même nécessaire.
Oui, tellement.
On ne peut pas escamoter de passer par-dessus ça.
Non, puis ça va rattraper aussi.
Mm-hmm.
Puis des fois, on se dit, mais comment je vais guérir de ça? Bien, laisse le temps. Donne-toi le temps. Chose qu'on ne fait pas.
Puis qu'on n'aime pas se faire dire, mais on est obligé de convenir que c'est ça pareil.
Oui, c'est ça, exact. Mm.
Merci vraiment beaucoup, Juliane, pour tous ces beaux messages. En tout cas, moi, je les reçois, là. Ils s'adressent à moi, tes messages. Puis, comme on le dit depuis tantôt, je pense qu'ils s'adressent vraiment à tout le monde. Alors, j'espère que nombreuses seront les personnes qui vont t'écouter, qui vont écouter ce podcast. Et recevoir tes messages qui sont pleins de positifs et de joie de vivre. Et c'est tellement important.
Bien, merci beaucoup.
La vie n'est pas toujours facile pour personne.
Non.
Alors, on n'est pas tout seul.
C'est ça.
On est tous dans le même bateau.
Oui.
Et merci encore pour tous tes beaux messages. Puis, je terminerai peut-être avec une question de conclusion. Avec tout ce que tu viens de nous livrer là, comme beau message, tu nous as vraiment, tu t'es livré de façon très généreuse à nous. Je te demanderais, en bout de ligne, là, c'est quoi ta mission de vie que tu te donnes?
Ma mission de vie, c'est très large. Puis ça peut changer beaucoup. Je pense que c'est une question importante ça, à se demander à certains stades, quand ça va peut-être moins bien ou quand on veut se réaligner puis avec nos valeurs et tout.
Tout à fait.
Que ça soit dans un travail ou peu importe, mais je pense que ma mission de vie que j'ai trouvée peut-être dernièrement, dans les dernières années, j'aimerais vraiment aider les autres simplement à s'accepter tels qu'ils sont. Je pense que je suis quelqu'un qui, depuis toute petite, défonce des barrières, ouvre des portes, comme Marco a aussi dit. Tu sais, là, c'est à moi de les ouvrir. Puis ce que je ne peux pas avoir accès, bien, je vais faire des recherches, je vais essayer de moi-même aller les ouvrir, ces portes-là qui sont fermées, avec bienveillance, le plus possible d'être en harmonie simplement, d'être heureuse. Puis, tu sais, je pense à mon fils en ce moment quand on parle de mission de vie, parce que pour moi, ma mission de vie, c'est aussi d'être une bonne maman.
Bien sûr.
Mais pour tous les autres enfants, depuis que je suis devenue maman, ça a changé un peu ma vie de devenir mère. Puis je suis très sensible à justement l'estime de soi, l'estime d'eux-mêmes. L'inclusion, c'est quelque chose qui m'est vraiment à cœur. Fait qu'une de mes missions de vie, c'est vraiment d'aider les jeunes, les autres simplement, à s'accepter tels qu'ils sont, à s'affirmer. Puis toutes les réflexions que j'ai eues, c'est toutes des choses encore aujourd'hui que je dois travailler aussi sur moi-même là-dedans. Mais ma mission de vie, je pense que c'est de faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre simplement, puis d'emmener de la beauté puis de l'espoir. Fait que c'est très large, là, mais c'est pas mal ce que j'essaie de faire là, pendant les dernières années.
Ouais. Encore une fois, félicitations. Je pense que tu es la personne toute désignée pour remplir cette mission de vie.
Merci beaucoup.
Avec ton parcours, avec ta persévérance, ta détermination, ta générosité, ton ouverture, je te confirme que tu étais dans la bonne voie.
Merci vraiment, Danielle. On est déjà au dernier moment.
Oui, c'est ça.
Oui. Est-ce que tu avais une dernière question? Moi, je te pose à toi la dernière
Non, mais en fait, j'allais te repasser le contrôle.
Oui, oui.
J'ai bien aimé ça l'avoir, oui. Mais je te le redonne.
Je le redonne. dans le fond, la dernière question que j'ai posée à toutes les invitées, qui est, si tu avais un seul mot à identifier au terme de la différence, pour toi, ça serait quoi? Puis j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi.
Bien, moi, ça peut paraître un contraire, là, mais c'est ensemble.
Oh, c'est beau.
Parce que depuis tantôt, je trouve qu'on parle d'unicité, de différence, mais en même temps, ensemble, on est tous différents.
C'est tellement vrai. C'est tellement beau, ça.
Alors, nos différences, au lieu de nous diviser, de nous isoler, devraient nous amener tous ensemble, nous rassembler.
C'est vraiment beau. C'est un nom unique, un mot unique qui n'a jamais été mentionné de tous les épisodes. Là, je peux enfin le dire. Là,
bon, ben,
c'est notre dernière. Mieux. C'est vraiment beau. J'adore ce mot-là.
Je suis contente parce que je suis cohérente avec ce que je vous ai dit, que la Fondation était là pour rajouter des services. Alors moi, j'ai ajouté un mot.
C'est vraiment beau. Merci, Danielle, pour toute ta présence, tout, tout ça, tout ce projet-là. Je suis vraiment émue de pouvoir clore, en fait, tout ce projet-là avec le mot « ensemble ». Je pense que ça résume tout. Puis je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi, de ce moment-là avec toi. Puis je remercie aussi là, tous les auditeurs là, également là, qui nous ont suivis, écoutés pendant peut-être les 20 épisodes, peut-être certains. Mais certes, tout le monde a fait une différence là-dedans. Donc, merci beaucoup.
Ben merci et je te souhaite une belle continuité dans ta vie, dans ta belle vie.
Merci, Daniel.
Et si j'apprenais à t'aimer, vaut mieux faire de toi mon allié. Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.